Bien, bonjour à tous. Comme vous le voyez, on va rentrer dans une partie de l'épître de Paul aux Romains. Et on va voir dans ce chapitre ce qui est lié au ministère du Saint-Esprit dans la vie, eh bien, de l'enfant de Dieu. Je vais lire les textes et puis on priera après. En effet, c'est l'inconvénient du direct. Donc de 5 à 27 dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. En effet, sous l'empire de la chair, on pense ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Christ est en vous. Votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est en votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. En effet, j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré, incarne l'espérance. Car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit, maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus l'espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. Et selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Seigneur, nous sommes toujours bouleversés par la lecture de ta parole. Bouleversés parce que tu es Dieu, tu nous surpasses dans tous les aspects, Seigneur. Et notre esprit d'être humain est tellement limité par rapport à toi. Et pourtant, tu as utilisé des hommes comme Paul, avec les dons qu'il a, avec la foi qu'il a, avec le zèle qu'il a. pour transmettre ta parole. Et Seigneur, parfois nous sommes complètement dépassés. Nous sommes bouleversés par ce que nous pouvons lire, quand nous pouvons le comprendre. Merci Seigneur pour ce plan magnifique que tu as eu pour nous sauver, de mettre ta parole, ta volonté sous forme d'un livre que nos esprits puissions le comprendre, même si beaucoup de mystères restent encore présents pour notre entendement. Seigneur, merci pour ces chapitres, merci pour le zèle qu'a eu Paul pour transmettre ce que tu lui avais suggéré ou ordonné d'écrire. Seigneur, ouvre nos cœurs par ton esprit pour que nous puissions nous y plonger et ainsi nous nourrir pour être toujours des enfants, tes enfants de plus en plus éduqués, de plus en plus fidèles. Nous voulons marcher vers la sainteté. La sainteté vient déjà parce que nous avons lu ce que nous avons appris. Amen. Alors, dans ce chapitre, le Saint-Esprit agit en nous dans quatre domaines intéressant la vie de l'enfant de Dieu. Bien sûr, il s'agit de chrétiens. On est totalement concerné par ce qui va être lu. Donc, on va voir quatre chapitres. L'Esprit soumet notre chair, il atteste notre qualité de fils, il garantit notre héritage et il vient au secours de notre faiblesse dans la prière. Avant de lire ces premiers versets, il faut nous rappeler que l'évangile de Jésus-Christ est un message prophétique. Cela veut dire qu'il n'est pas ce que les gens ont envie d'entendre, ce que ceux qui ne sont pas connaisseurs de qui est Dieu, on n'a pas envie d'entendre. Mais c'est ce que Dieu a envie de leur dire, ce que Dieu a envie de nous dire. Donc parfois, il y a des choses que le Seigneur nous enseigne et qui peuvent nous heurter ou pour lesquelles nous ne pourrons pas soit ne pas comprendre, soit être en opposition. Mais c'est la parole de Dieu et nous n'avons qu'à nous y soumettre. Parce qu'il nous aime et le but c'est de nous sauver, qui que nous soyons, de quelque horizon que nous venions. Donc l'Esprit soumet notre chair. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'emprise de l'Esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'Esprit tend à la vie et à la paix. Alors vous voyez, dans ces deux versets, il est question du présent, ce n'est pas un truc pour l'avenir, c'est maintenant. Dès à présent, la mort, pour ceux qui ne sont pas avec Christ, parce que cela nous conduit au péché, donc à la séparation d'avec Dieu qui est la mort. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on était avant de connaître Christ. Mais tendre à ce qui est spirituel, c'est la vie. Dès maintenant, nous n'avons pas à attendre plus tard ou un jour d'être au ciel, mais dès maintenant. Donc, nous avons le choix entre ne pas choisir la mort ou bien tendre vers la vie dès maintenant, parce que cela conduit à la sainteté. Et la sainteté, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une communion constante et permanente avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, elle est la vie, elle est la paix avec Dieu, être en paix avec Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu qui est la vie et la paix en nous-mêmes, c'est-à-dire l'équilibre et l'harmonie. Je me suis rappelé les derniers mois de notre frère Rénal. N'avez-vous pas remarqué la paix que notre frère avait? C'était simplement bouleversant, parce qu'il était en harmonie. Il était vraiment dans une relation la meilleure qu'il puisse avoir avec le Père, par cette foi, par cette confiance qu'il avait, dans cette espérance qu'il avait. Et c'est bouleversant. Alors, si nous sommes dans l'esprit, nous nous préoccupons des choses de l'esprit et nous marchons selon l'esprit, et donc nous vivons. Alors, si nous sommes dans l'esprit, nous nous préoccupons des choses de l'esprit, nous marchons selon l'esprit, et donc nous vivons. Alors, ce que nous sommes dans l'esprit, n'est-ce pas, détermine notre manière de penser. Ça, c'est notre position qui détermine notre manière de penser. Notre manière de penser détermine notre comportement. Si j'ai une pensée qui va à travers, mon comportement ira à travers. De la même manière, si ma pensée est saine, j'aurai un comportement sain. Et notre comportement détermine notre relation avec Dieu, avec le choix de la mort et entre la mort et la vie. Donc, on commence par être qui nous sommes et notre manière de penser. Alors, notre manière de penser, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit des préoccupations ou des désirs qui nous poussent, des intérêts qui nous captivent. C'est la manière dont nous employons notre temps, notre argent, nos forces. Il s'agit de toutes les choses auxquelles nous nous adonnons, vers lesquelles nous tendons. Et je rappelle que, on a vu déjà dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains en étude biblique, que le vieil homme que nous devons faire mourir, c'est notre pensée. Mais notre pensée avant de nous être convertis. Parce que notre pensée avant de connaître le Seigneur, de nous diriger vers lui, nous mène vers la mort. Et c'est cette pensée-là que nous avions, que nous devons éliminer, que nous devons crucifier. C'est douloureux, c'est un long processus. Mais on va voir que le Saint-Esprit est là pour nous donner la vie. Nous passons au verset 9. Or vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Alors deux remarques, hein. Là nous avons deux synonymes, l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. Et à chaque fois ça veut dire la même chose, que nous vivons par la même expérience. Et un deuxième point, c'est que la caractéristique du véritable chrétien qui le distingue de celui qui n'est pas chrétien, c'est que le Saint-Esprit habite en lui. Le Saint-Esprit, Dieu, habite en nous. Suivant. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors les deux versets commencent par une condition, proposition conditionnelle, si Christ est en vous et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous soyons conscients qu'il parle à des chrétiens. Nous sommes convaincus que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Christ en nous. Quel est donc l'effet de la présence de Christ par son Esprit en nous ? Eh bien, c'est la vie. Et la vie pour notre esprit dès maintenant. Et il est dit là, et la vie pour notre corps au dernier jour. Ça, on le développera plus tard. Ça veut dire que notre mort qui va mourir va ressusciter un jour. Et ça sera l'Esprit qui va donner vie à ce corps. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vie, donc il aura tout pouvoir sur notre corps. Il est le Seigneur qui donne la vie. Le Saint-Esprit est le Seigneur qui donne la vie. Souvent on utilise cette expression, peut-être de façon un peu trop restrictive, en parlant de Dieu ou de Jésus. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu. C'est pourquoi si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. À cause du péché d'Adam, nous allons mourir physiquement. Nous mourrons physiquement. Et à cause de la justice de Christ, nous vivons spirituellement. Alors j'ai gardé les deux mêmes mots, à cause du péché d'Adam et à cause, on pourrait plutôt dire grâce à la justice, mais c'était pour dire que les conséquences de ces deux actions nous mènent sur des chemins différents, la mort ou la vie spirituelle. Ensuite, alors là on va reprendre toujours les mêmes versets, mais là j'ai mis en couleur qu'il est question de la Trinité, il est question de Christ, il est question de l'Esprit, et il est question de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, vous l'avez compris, c'est le Père, n'est-ce pas ? Et ces trois personnes de la Trinité, eh bien, nous donnent la vie. Il est question que notre corps sera ressuscité. Pourquoi ? Parce que l'Esprit qui habite en nous sanctifie aussi notre corps. Donc nous avons à contrôler ce corps, à ne pas lui faire faire n'importe quoi. Donc le pourquoi et le comment, par la puissance même du même esprit qui habite en nous. Donc le Saint-Esprit qui a déjà donné la vie à notre esprit, donnera aussi plus tard la vie à notre corps mortel au dernier jour. Ainsi donc, frère, nous avons une dette, mais non envers la chair, pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Alors là, le raisonnement est le suivant. Toujours, si le Saint-Esprit est la source de notre vie et de mort en nous, il ne nous est pas permis de marcher selon la chair. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Parce que cela nous conduit à la mort. Une telle contradiction entre ce que nous sommes, les enfants rachetés, et ce que nous faisons, qui serait tenté de nous ramener vers la mort, c'est contradictoire, c'est impensable. Entre posséder la vie et jouer avec la mort, c'est impensable. Je ne sais pas si vous voyez le drame, enfin le contraste violent qu'il y a entre nous sommes des êtres vivants dans notre esprit, et si nous restons avec notre ancienne chair, nous allons vers la mort. Et là, il est dit, par conséquent, nous sommes débiteurs de l'Esprit qui nous a donné la vie. Et par sa puissance, nous devons mettre à mort tout ce qui menace cette nouvelle vie, en particulier les actions du corps. Alors, nous avons une dette. Là, il est dit, mais non envers la chair. Et il semblerait qu'il puisse manquer, mais je pense que Paul a compris qu'on allait compléter. Nous avons une dette non envers la chair, mais une dette envers l'Esprit. Nous avons l'impérieuse obligation d'être ce que nous sommes, de conformer notre conduite à notre personnalité, de ne rien faire qui soit en contradiction avec la vie de l'esprit qui est en nous, mais bien plutôt de nourrir cette vie, de la développer. Alors si nous voulons être honnêtes et nous acquitter de notre dette, nous serons engagés dans un double processus. Les termes théologiques qui s'y rapportent sont la mortification et l'aspiration. Donc ce sont deux gros mots, on pourrait appeler ça comme ça. La mortification, c'est mettre à mort les actions du corps par la puissance de l'esprit. C'est encore une fois une autre manière de dire crucifier le vieil homme. La mortification signifie le rejet sans indulgence de toutes les œuvres que nous savons être mauvaises. C'est une repentance de chaque jour. D'où le besoin qu'on a d'avoir cet esprit, le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. C'est une repentance de chaque jour, c'est rompre avec tout péché manifeste dans nos habitudes, nos actions, nos pensées, nos relations. L'Évangile traduit ça également comme arracher un œil, couper une main ou un pied si la tentation vient à nous par ce que nous faisons ou nous voyons. L'Évangile est brutal là-dessus, mais c'est comme ça que nous pouvons crucifier cette vieille pensée, cette vieille personne. Alors, quand je dis vieil homme, il s'agit d'une généralité. Je ne mets pas le genre là-dedans entre hommes et femmes. Tous les êtres humains, sont concernés. L'aspiration, c'est se préoccuper des choses de l'esprit, s'attacher à elles. Et c'est un don sans réserve de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons là une action qui vient de nous, contrôler nos pensées, nos forces et nos désirs. Vers tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste et pur, dit d'être aimé, d'être honoré, d'où l'importance de lire, de nous nourrir de cette parole de Dieu qui nous montre, qui nous enseigne tout au long de nos journées, de nos années, de notre vie, ce qui est noble, juste, pur, dit d'être aimé, d'être honoré, selon notre Dieu. Alors bien sûr, il y a là-dedans plus la pratique régulière des moyens de grâce, comme la prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle, l'adoration, la sainte cène. C'est tout cela qui est englobé dans le fait de tendre aux choses de l'esprit. Donc encore une fois, la mortification et l'aspiration sont exprimées par des verbes au présent parce qu'elles sont des attitudes de maintenant. Nous n'avons pas à attendre pour faire mourir notre vieille pensée. Et de continuer à marcher avec persévérance et sans relâche. D'ailleurs, il est souvent dit dans le Nouveau Testament courait sans cesse, marchait sans cesse, ne cessait pas de lutter. Nous allons aborder maintenant le deuxième aspect. L'esprit atteste notre qualité de fils. On a vu dans le premier que c'était l'esprit soumet notre chair. L'esprit atteste notre qualité de fils. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'esprit. Si vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba Père ». Et c'est l'esprit lui-même qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et du coup, enfants de Dieu, et co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Nous faisons mourir notre vieil homme, de la même manière Jésus a fait mourir le péché. Alors notre position, c'est-à-dire que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, animés de la vie de l'Esprit, et notre privilège, ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu, des fils. Là, il faut que l'on soit conscient qu'il y a l'activité de l'esprit, la première en relation avec notre vie, la deuxième en notre position de qualité de fils. Ce sont des perspectives d'intimité avec Dieu, s'approcher de Dieu et être en communion avec lui, le Père, telles sont les grâces qu'il accorde à ses enfants. Alors, tous les êtres humains ne sont pas cependant des enfants de Dieu. Et c'est à dessein, de manière précise, que le verset 14 que je vais relire. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est à dessein, de manière précise, que le verset 14 limite cet état à ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont rendus capables par l'Esprit de marcher sur les trois sentiers de la justice. Être conduit par l'Esprit et être fils de Dieu sont deux expressions synonymes. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et réciproquement. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Là, il nous est également indiqué dans le verset 15 que ce n'est pas un esprit de servitude, mais d'adoption et, ou de fils. Verset 16 nous garantit que le Saint-Esprit est le garant permanent de la position qu'il nous donne. Quand nous crions « Abba Père », on peut revenir au 15, s'il te plaît. Nous crions « Abba Père », parce qu'il est en fils comme nos enfants, comme moi-même, je veux dire à mes parents, maman, papa ou maman, nos enfants nous disent « Papa et maman », nous disons « Abba Père », nous disons « Père ». Alors je voulais revenir sur un petit détail là, qui est peut-être un peu en dehors. Certains d'entre nous, quand nous prions à voix haute, nous répétons trop souvent « Papa » ou « Abba Père ». Quand un enfant nous parle, il n'a pas besoin de répéter notre prénom en permanence. Au début de la prière, c'est bien, ou à la fin. Mais en permanence, Dieu sait à qui nous parle. Nous parlons. Nous n'avons pas besoin de répéter trop souvent cette expression. Ça ressemble un peu à une litanie, et j'ai peur que dans ce cas-là, notre entendement ne soit pas pleinement ouvert dans notre prière. Verset 17, donc nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. On a eu l'occasion d'entendre ce que Jean avait vu dans le livre de l'Apocalypse quand il est présent au ciel. Il y a ce trône magnifique avec quelqu'un de brillant dessus, de magnifique. Et avec la nature, les êtres vivants, c'est-à-dire la nature, la création qu'il adore, et les vieillards qui représentent nous, les membres de l'Église, les enfants de Dieu qui le louent. Et il était question d'une gloire. Nous pouvons, avec notre entendement humain, penser qu'un jour nous serons au milieu de cette gloire. Cette gloire étant stupéfiante de puissance, que chaque fois que dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, quelqu'un a voulu s'approcher de l'endroit où était Dieu, Dieu l'a arrêté parce qu'il allait mourir, il allait être brûlé. Troisième point, l'Esprit est le garant de notre héritage. Alors Paul nous montre dans la souffrance présente et dans la gloire à venir la création tout entière et la nouvelle création, c'est-à-dire l'Église, sont engagées ensemble. La nouvelle création et l'Église sont ensemble. Les deux créations, l'ancienne et la nouvelle, la physique que nous connaissons et la spirituelle que nous vivons par la foi, la nature et l'Église souffrent ensemble, maintenant, et seront glorifiées ensemble à la fin des temps. Donc, on va commencer par la création, on verra ensuite l'Église. Paul dit, j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est nous quand les enfants de Dieu seront auprès du Père et seront reconnus comme enfants du Père. C'est cette révélation. On revient un peu en arrière. On va aller plus loin. Alors là, il est question toujours de la création. J'ai mis en vers des mots comme le néant, la corruption, les douleurs. Ça, c'est la souffrance de la création. Dans le terme néant, pouvoir du néant, vous vous rappelez que dans le livre écrit par Salomon, l'Ecclésiaste, il est question que tout est vanité sur la terre. Et c'est ce néant dans lequel est la création. Tout est vanité sur terre, n'est-ce pas? Et ça signifie ce néant, le pouvoir du néant, l'échec ou la vanité. Et cette futilité ou frustration à laquelle Dieu a soumis la création, ce n'est pas un processus naturel de la création qui est devenu vain. C'est Dieu qui gère toute chose. Il a soumis la création comme un esclavage de la corruption. C'est-à-dire qu'on est la création dans un cycle ininterrompu de naissance, croissance, mort et décomposition. Toute la dégradation progressive dans un univers qui semble dépérir. J'entends parfois des gens qui disent « Oui, mais on va de l'avant, le monde s'améliore. » Nous savons que non, l'Apocalypse nous dit que les choses vont aller de pire en pire. Donc, cette évolution est accompagnée de douleurs au sens propre et au sens figuré, néant, corruption et douleur. Voilà les mots utilisés par l'apôtre pour dépeindre la souffrance présente de la création. Mais ce n'est que temporaire, car les souffrances présentes de la création aboutiront à la gloire à venir. Alors là, j'ai mis en rouge, toujours la création, elle garde l'espérance. Nous avons vu qu'elle souffre, mais en même temps, il y a ce côté formidable à côté. Elle garde l'espérance. Non, elle gardera. Elle garde l'espérance. Dieu a mis dans la création cette espérance. Et elle sera libérée de... Non, pardon. Elle aussi sera libérée. On passera de la condition de corruptibilité à une condition pure. Et la création tout entière, j'ai mis maintenant, elle ne gémira plus dans les douleurs de l'enfantement. Alors, il est question de cet enfantement. Ces douleurs, ces gémissements sont comparés à des douleurs de l'enfantement. Quand une maman en passe par les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'espérance d'avoir un bébé, d'avoir donné la vie. Et c'est ce qui va arriver à la création, n'est-ce pas? Ça va donner le jour à un nouvel état de choses, comme il est dit dans Matthieu 24. Ça veut dire qu'il y a encore, il y a toujours une espérance pour cette création que l'homme s'amuse à détruire, ou que le péché, depuis le départ, a commencé à endommager, à détruire. Maintenant, deuxième aspect, on a vu la création là-bas pour l'Église. La possibilité. Non, elle n'est pas la seule. Ça veut dire qu'il y a c'est Paul qui dit ça, on a vu que la création, mais elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour un autre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Alors, quels sont les gémissements intérieurs que nous partageons avec le reste de la création? Il n'est pas question ici de persécution.
mais simplement du fait que nous ne sommes sauvés qu'à moitié. Effectivement, personne d'entre nous n'est encore sauvé totalement, entièrement. Notre âme est rachetée. Mais c'est vrai, mais pas notre corps. Et c'est notre corps non racheté qui provoque nos gémissements. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous avons un corps faible, fragile, mortel, sujet à la fatigue, à la maladie, à la souffrance et à la mort. Nous sommes tous dedans, nous savons ce que ces mots veulent dire, à des degrés différents. Mais d'un autre côté de ce corps qui est fragile, qui est faible, qui est mortel, il y a la chair, notre nature pécheresse, est déchue. Et elle habite toujours dans notre corps mortel. Alors je vous rappelle que cette nature pécheresse, elle devrait s'arrêter comme si on avait écrit un livre, jusqu'au jour où on s'est converti. On a écrit le tome 1, et maintenant nous sommes dans le tome 2. Le tome 1 nous menait à la mort, le tome 2 nous mène à la vie. Ce qui nous pousse à gémir intérieurement, c'est donc d'une part la fragilité de notre corps, d'autre part notre nature déchue. C'est pourquoi nous attendons ardemment la gloire à venir où nous serons délivrés de ces deux fardeaux. Je suis sûr qu'on a tous prié, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de la condition dans laquelle je suis, qui est le fruit de notre péché. Alors cette gloire à venir est définie de deux façons. C'est d'abord la rédemption de notre corps. On revient en arrière. Oui, c'est la délivrance pour notre corps. Dans la version seconde, il est question de la rédemption de notre corps, au verset 23. En effet, au dernier jour, un nouveau corps nous sera donné, libéré du double fardeau de sa fragilité et de sa chair. Vous vous rendez compte, j'aurai un corps beau, je serai en pleine santé, heureux, c'est formidable. Je parle de moi, mais ce sera pareil pour chacun d'entre nous. Notre corps de résurrection aura des pouvoirs nouveaux et insoupçonnés, et le péché ne l'habitera plus. Ça me dépasse complètement d'avoir un corps parfait avec une pensée parfaite en connexion avec la sainteté de Dieu. Et deuxièmement, la gloire à venir aussi, notre adoption. Et l'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes adoptés. C'est une chose qui est réelle. Alors nous sommes absolument sûrs de ce glorieux héritage car nous possédons les prémices de l'Esprit, comme il est dit au chapitre 23. Alors, ces notions de prémices, on peut ramener ça au domaine agricole, où on va travailler, on va suer, on va faire plein de choses, notre intelligence, notre énergie, notre temps, en vue d'une abondante moisson à venir. Il y a une espérance glorieuse et riche. Dernier chapitre, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse dans la prière. Alors de même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissant inexprimable. C'est l'Esprit qui nous dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Et là, nous sommes repris par l'apôtre Paul. Et celui qui scrute les cœurs, le Saint-Esprit, sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Voici encore donc un autre ministère du Saint-Esprit, et c'est nommé quatre fois dans l'espace les deux versets. Nous avons de même l'Esprit, oui, dans notre faiblesse, l'Esprit nous vient en aide parce que nous sommes faibles pour prier. Il est question de faiblesse, il est question de nous ne savons pas prier et nous gémissons. Mais également l'Esprit est là pour nous aider, il vient en aide. Il intercède et il nous convainc il nous donne la bonne direction pour prier. Parce qu'il sait comment prier, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous incite à prier. Quelquefois, nous nous trouvons réduits au silence par l'intensité même de nos aspirations profondes. Quelquefois, nous nous sentons si accablés par notre nature mortelle ou par le péché présent en nous que nous ne pouvons que gémir. Et avec des soupirs que les mots ne peuvent rendre. quand nous soupirons ainsi des demandes inexprimées, c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède à notre place. Dieu le Père comprend aussi bien les prières soupirées que celles que nous prononçons avec des mots audibles et intelligibles par notre bouche, car il sonde nos cœurs et nos pensées. Et il sait également quelle est la pensée de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit agit toujours selon la volonté du Père. Voilà, on va bientôt arriver à la fin. Donc nous avons vu que dans ce chapitre-là, il est question de soumettre notre chair, notre nouvelle chair depuis notre conversion en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des fils, des enfants de Dieu. Nous allons vers la vie. Nous ne pouvons pas régresser vers notre vieille nature qui nous mène dans la mort. Il garantit notre héritage. Ça, par la foi, nous pouvons croire avec certitude cette espérance qui nous attend. Et le Saint-Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse dans la prière. Alors je finirai, parce que j'ai lu beaucoup de versets, par un petit poème qui a été écrit par un James Montgomery, qui a vécu de 1771, qui est décédé en 1819, on n'en a probablement pas entendu parler. Mais la prière est l'appel sincère de l'âme, prononcé ou muet, que nous puissions l'exprimer ou gémir. La prière, c'est un appel sincère de l'âme. La prière, c'est la montée d'un feu caché qui frissonne en notre sein. Nous avons ce feu en nous quand nous voulons parler à Dieu. C'est quelque chose de précieux qui brûle. Elle est parfois cachée, mais elle frissonne en nous, elle est vivante en nous. La prière est le poids d'un soupir, une larme qui tombe. C'est vrai que parfois nous sommes lourds, et la prière a le poids d'un soupir, une larme qui tombe. Et enfin, c'est l'éclair d'un regard vers le ciel quand nul autre que Dieu n'est proche. Vers qui nous pouvons nous tourner quand il n'y a personne qui puisse nous comprendre? Notre Dieu, notre Seigneur et l'Esprit.